Bonjour et bienvenue donc à tous et à toutes. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enseigné. Je dois être un peu rouillé. On veut remercier Tonio pour sa fidélité dans l'enseignement et aussi, je crois que vous appréciez tous son enseignement. Aujourd'hui, on aimera continuer dans notre texte. On va se tourner dans Luc 16. C'est vrai que nous abordons un passage dans Luc 16 qui va parler de richesse et de pauvreté, de l'usage des richesses, du bon usage des richesses. C'est toujours intéressant de réaliser que dans les évangiles de Luc, de Matthieu, Marc et Luc, un verset sur six parle d'argent ou de ressources matérielles. L'argent, c'est un article, une chose qui peut être utilisée comme passeport universel pour aller partout sauf au ciel. Et c'est aussi un fournisseur universel de toutes choses sauf du bonheur. La Bible parle beaucoup d'argent et même lorsque l'on considère des textes qui parlent de Jésus, on voit que c'est souvent un de ses sujets favoris. On peut voir dans le passage de 2 Corinthiens 8, on va regarder d'abord ce passage, si vous voulez vous y tourner, 2 Corinthiens 8, on va se concentrer sur le verset 9 qui nous dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Ça, en fait, ça peut être un message de Noël. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La grâce, c'est la générosité qui n'est pas méritée. Il était riche. La divinité de Jésus-Christ est une chose clairement fondamentale dans l'enseignement de la Bible. Il existe de toute éternité. Lorsque nous célébrons sa naissance à Noël, nous célébrons sa naissance parmi les hommes. Il a décidé de s'incarner, de venir comme un être humain, tout petit, sans défense, qu'on emmaillote, qu'on doit changer. Tout ça parce que il voulait que nous soyons riches. Il était riche de toute éternité, preuve que sa vie n'a pas commencé dans le sein de Marie. Au contraire, il est dit dans plein de passages qu'il habitait par exemple dans des palais d'ivoire, psaume 45, dans toute la gloire divine. Et toutes les richesses terrestres pâlissent en comparaison. Et il était fabuleusement, immensément riche, et il s'est rendu humble. Il est venu comme l'enfant d'une famille pauvre qui n'avait même pas de quoi se payer un hôtel décent. Il a condescendu, il a accepté de s'humilier dans les conditions de sa naissance, mais il n'a pas perdu sa divinité. Il est né le divin enfant. Seule son humanité était pauvre. Et ça, c'est quelque chose que nous avons du mal à comprendre. On a tendance à mettre les richesses au centre, les richesses physiques, matérielles au centre de Noël. C'est à Noël que le chiffre d'affaires de certaines entreprises dans notre monde est fait à 40%, 30%. On associe souvent Noël avec des dépenses somptuaires. Et c'est bon dans le sens où ça nous rappelle la générosité de Dieu qui nous a offert le plus beau des cadeaux possibles. Mais en même temps, nous voyons que nous centrer sur les paillettes, sur l'or, sur les dépenses monétaires, c'est peut-être pas le sens que Dieu voulait que nous accordions à Noël. Encore une fois, Noël, c'est riche parce que ça nous montre le don de Jésus-Christ, notre Seigneur, fait pour nous, qui est venu, qui a accepté de s'humilier. Il a mis de côté sa splendeur, sa richesse. Il s'est fait approchable. On n'a pas de mal à s'approcher d'un petit bébé. Un petit bébé sans force, sans orgueil. On a même souvent tendance à oublier que derrière le ventre d'une maman enceinte, il y a une personne, il y a une dame, et je vois que souvent les gens n'hésitent pas, et Lindsay peut en attester sans doute, à venir toucher l'enfant. Parce que un enfant d'homme, c'est pas intimidant. Il était riche, mais il s'est fait pauvre pour nous. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour vous, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. C'est un fait attesté que Jésus a vécu dans la pauvreté, justement pour être approchable par tous. C'est intéressant qu'il y a toujours ce souci dans la Bible de pouvoir s'adresser à tous les hommes. Il est fait usage dans la Bible de beaucoup d'images qui ont trait à l'agriculture. Pour nous, ça ne nous gênerait pas si toutes les images étaient relatives à l'informatique. On comprendrait, probablement, on pourrait dire, un programme a échoué, un programme a été sauvegardé. On pourrait faire toute une image, mais on toucherait. Ce message n'aurait pas été éternel, n'aurait pas touché les populations du monde qui étaient au temps de l'agriculture. Il y a toujours ce souci de communiquer et la Bible nous montre un Seigneur, un Sauveur qui se fait humble. Jésus lui-même disait dans Matthieu 8, 20 que les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est toujours un contraste intéressant. c'est toujours plus difficile de vivre pauvre quand on a été riche. Alors, je ne sais pas si dans votre vie, vous avez eu des périodes fastes qui ont été suivies de pauvreté, des périodes d'embauche, de plein emploi suivies de chômage. Mais c'est plus facile de devenir riche quand on a été pauvre que l'inverse. Et Jésus, lui, n'a pas sourcillé, il a accepté de devenir pauvre. C'est le message de Noël. On est souvent gêné par de parler d'argent, de richesse. On trouve que c'est trop matériel. Pourtant, la Bible n'hésite pas. Et encore une fois, un verset sur 6 dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc parle d'argent. Pourquoi ? Parce que l'argent, c'est quelque chose que nous le voulions ou non, c'est quelque chose que nous connaissons. Nous connaissons l'abondance ou la pénurie, mais beaucoup de nos soucis dans la vie ont trait avec nos moyens financiers. Il y a des passages bien connus dans la parole, comme Job, qui disait « Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai. » On attend pour Tonio et Lindsay, surtout, un heureux événement, la naissance d'un bébé. Et ce serait drôle si ce bébé arrivait avec une petite sacoche d'échiquier ou des sacs de monnaie. Non, il va arriver nu. Et quand on repart, on peut mettre des tas de choses dans le cercueil. Il y a même des personnes qui se font enterrer dans des Cadillacs, des voitures de luxe. Mais à la base, on repart nu comme on est arrivé. La Bible n'hésite pas à parler d'argent. Nous, il y a une fausse honte à en parler. On y pense tout le temps, mais on veut donner l'impression qu'on est au-dessus de ça. Un passage bien connu, c'est dans 1 Timothée 6, versets 6 et suivants, qui nous dit « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. » Car si nous n'avions rien apporté dans le monde, il est évident qu'aussi nous ne pouvons rien en emporter. C'est ce que je disais, on arrive nu et on repart nu. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car, et c'est un verset clé, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux ou de bien des maux, suivant les versions, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'argent, c'est quelque chose qui nous touche tous parce que ça a trait à notre survie et à nos conditions de vie. Et Jésus, justement, quand il est venu comme un bébé dans une famille pauvre, et entre parenthèses, il y a souvent un grand contraste entre le vrai message biblique de Noël et la façon dont il est vécu dans certaines églises qui... Même chez nous, il y a des décorations, mais qui dépensent beaucoup d'argent pour célébrer cette fête. Je crois que la meilleure façon de célébrer cette fête, c'est d'être généreux avec les ressources que Dieu nous a données pour faire du bien autour de nous. Jésus nous a donné l'exemple d'une vie de pauvreté qui nous a bénis. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour nous. Sa pauvreté nous bénéficie, nous fait du bien. Elle nous montre que Dieu a un cœur généreux. Qu'on peut lui faire confiance. C'est important de savoir que on n'a pas un Dieu radin. Et souvent, inconsciemment, on pense que Dieu est radin ou qu'il a des ressources limitées. C'est un peu pour ça que des fois on peut être jaloux des bénédictions accordées aux autres. On voit un tel qui est béni par Dieu et on se dit « il va plus en rester pour moi ». Comme si ses ressources étaient limitées. La pauvreté de Jésus quand il est venu sur terre, ça relativise l'importance des choses matérielles. Nous accordons une grande importance quelque part, j'ai lu que 40 à 50% de nos préoccupations sur Terre ont trait à l'argent et à nos ressources. Et c'est vrai qu'il faut, vivre, il faut pourvoir aux besoins de sa famille, il faut pourvoir aux besoins de ceux qui sont autour de nous, il faut pouvoir aussi, c'est une grande bénédiction, être en mesure de bénir les autres matériellement. Mais tout ça, c'est relatif. La façon dont nous disposons de nos propres ressources matérielles maintenant va avoir une influence sur la richesse que nous allons avoir dans l'éternité. La pauvreté de Jésus nous rend Jésus ouvert et accessible à tous. Le fait que c'était un petit bébé à la crèche fait qu'on n'a pas peur de l'approcher. On parle des enfants princiers à Buckingham Palace. Ils sont sous haute surveillance, on voit une photo de temps en temps. Mais là, Jésus est né dans cette étable. Au vu et au su de tous ceux qui voulaient bien prendre la peine de s'approcher. Sa pauvreté parce que nous bénéficie aussi parce que elle permet elle met en quelque sorte, elle reprend l'orgueil des gens, de ceux qui refusent de venir à quelqu'un de pauvre. Il y a des gens qui disent, moi je veux un Dieu puissant, riche, je veux pas d'un enfant dans une étable. Et pourtant c'est le cas. Il veut qu'on soit prêt à reconnaître en cet enfant pauvre le Créateur de l'univers, celui qui accorde la valeur aux choses qui ont besoin d'être reconnues comme ayant de la valeur, pas les choses passagères de la terre. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont repris dans leur orgueil lorsqu'ils voient que le Dieu Tout-Puissant de l'univers s'est humilié en venant comme un bébé sans défense, un bébé qui est prêt à venir dans le cœur de chacun. Il appelle, il encourage, il requiert l'humilité. Ça a souvent mal reçu par les hommes. Sa pauvreté, elle satisfait le plan de Dieu, parce qu'il s'est rendu accessible à tous, il a rendu le salut possible. Nous pouvons le recevoir et devenir riches de toutes les vraies richesses qui comptent, les richesses spirituelles. Et ça, c'est le message de Noël. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Une pauvreté dans les biens matériels qui permet que nous soyons enrichis dans les biens spirituels. On va encore avoir une débauche de cadeaux. On voit comment les gens se ruent dans les magasins à la dernière minute pour acheter des cadeaux inutiles qui coûtent cher. Et tout ça, ça passe vite. Ça n'a pas de valeur éternelle. Et l'invitation, bien sûr, pour moi comme pour vous, c'est de recentrer nos pensées sur le vrai sens de Noël, de pas nous laisser accaparer par la folie des achats, des réceptions, des repas. Encore une fois, il n'y a rien de mal à se réjouir, à éprouver de la joie en famille, avec des amis. C'est merveilleux. C'est une façon, si c'est bien présenté, de faire passer le message de Noël auprès du monde qui nous entoure. Je suis toujours émerveillé de voir les athées qui essayent d'interdire les crèches. Ça fait longtemps que c'est le cas aux États-Unis. En France, ça commence à... On voit les athées qui commencent à s'énerver. Je crois qu'à Béziers, ça a été repoussé comme étant pas nécessairement un symbole religieux dans la laïcité de notre République. Mais c'est vrai que ce message de Noël, il est basé sur la générosité de Dieu, qui de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous afin que nous ne soyons riches. Et encore une fois, le message de l'argent, c'est quelque chose qui est très présent dans la parole. On va revenir à Luc 16, justement, et lire ensemble. Jésus dit aussi, verset 1 du chapitre 16, Jésus dit aussi aux disciples, « Il y avait un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. » Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton intendance, car tu ne pourras plus être mon intendant. » L'intendant se dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'intendance de ses biens ? Piocher la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y en ait qui me reçoivent dans leur maison, quand je serai relevé de mon intendance. » Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître ?»« 100 mesures d'huile, répondit-il. » et il lui dit « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50. » Il dit ensuite à un autre « Et toi, combien dois-tu ?»«
100 mesures de blé, »
répondit-il. Il lui dit « Prends ton billet et écris 80. » Le maître loua l'intendant infidèle, de ce qu'il avait agi en homme prudent. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Il leur dit, vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de la loi de tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Amen. Encore une fois, Jésus utilise un exemple de richesse et de la façon dont elles sont utilisées pour annoncer la bonne nouvelle. Il utilise dans ce chapitre, il va utiliser une parabole. C'est la première qu'on vient de lire, c'est celle de l'intendant infidèle. Le reste du chapitre 16, qu'on verra une prochaine fois, c'est probablement une histoire authentique, parce qu'il y a des personnes nommées, mais qui est aussi une façon de parler des richesses et du bon usage qu'il faut en faire. Celle que nous venons de lire s'appelle celle de la parabole de l'intendant infidèle. C'est en fait même cette parabole une des paraboles les moins faciles à expliquer. Ou du moins celle qui a des interprétations les plus variées. Il y a des gens qui disent qu'en fait il y a même eu des erreurs de copie dans le texte et qu'en fait ce qui est dit, ça devrait être le contraire de ce qui est dit, parce que ce qui est dit va tellement à l'encontre de ce qu'on attend normalement dans la sagesse populaire. Je crois que cette parabole, elle est destinée à nous montrer, à montrer aux disciples qu'on doit utiliser nos richesses, nos ressources pour le royaume de Dieu. Dieu s'est fait pauvre et en même temps, il veut que nous aussi, nous puissions nous rendre pauvres en utilisant nos richesses pour faire avancer le royaume, pour faire avancer la vérité. Donc il y a d'abord la parabole, les 8 premiers versets qu'on a lus. Et puis il y a l'application, la façon de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne dans ces 8 premiers versets. L'application, en quelque sorte. Il est question d'un intendant. C'est un terme qui est un peu vieilli. Aujourd'hui, on dirait le gérant. On parlerait du conseiller financier, de l'économe. C'est celui qui gère les biens de quelqu'un d'autre. Ces biens ne lui appartiennent pas, mais il essaye de les gérer de la meilleure façon possible. Et ce possible, des fois, ça peut vouloir dire de la meilleure façon possible pour le propriétaire, ça devrait être normalement le cas. Des fois, c'est de la meilleure façon possible pour lui-même. Ça, ce sont ceux qui gèrent d'une façon malhonnête ou pas tout à fait honnête. Quand on se promène à Antibes, sur le quai des milliardaires, on voit tous ces bateaux. Généralement, il y a un hélicoptère sur le pont. Pourquoi ? Parce que le propriétaire n'est pas là. Ou peut-être si l'hélicoptère est là, le propriétaire est là, mais il y a ce hélipad, ce parking à hélicoptère sur le pont du bateau qui montre que peut-être le propriétaire n'est pas là. Il y a des gens qui s'affairent, qui sont là et qui gèrent les biens du milliardaire. Ils sont là pour le maintenir en état, pour le faire prospérer. Et là, il s'avère que ce gérant, cet intendant, comme il est dit dans notre texte, dans la Bible à la Colombe, il était malhonnête. Parce qu'il a... On avait rapporté qu'il dissipait les biens du maître. Il gaspillait, un peu comme le fils prodigue était parti avec sa richesse et l'avait dépensé n'importe comment. Il était irresponsable. Et c'est pour ça que le maître a décidé de le licencier. Tu ne pourras plus être mon intendant. Mais cet homme était de toute évidence futé, malin, et il s'est dit, que dois-je faire ? Verset 3, mon maître va me retirer la gestion de ses biens dont je tirais parti, il va me licencier, quelles sont mes possibilités ? Or, c'était quelqu'un qui était paresseux, c'était quelqu'un qui était aussi orgueilleux. Donc parce qu'il était paresseux, il ne voulait pas travailler dur. Il se dit, piocher la terre, pas question, c'est trop pénible comme travail. J'en ai pas la force, je suis trop faible. Mendier, j'en ai honte. Ça aurait été trop difficile pour lui, pour son honneur, d'être rabaissé au rang de mendiant. Parce que c'était un homme orgueilleux aussi. Et comme c'était un homme astucieux, verset 4, il dit, ah, j'ai une idée, quand mon maître va vraiment me mettre à la porte, je vais faire en sorte que les gens qui lui doivent de l'argent vont me recevoir, vont me traiter comme un ami. Alors il fait appeler ceux à qui qui doivent de l'argent à son maître, et il révise leur dette à la baisse. Il avait encore en lui la signature, le tampon, l'autorité nécessaire pour ajuster les dettes de ces personnages, de ces personnes vis-à-vis de son maître. Donc il a cette brillante idée pour se faire des amis. Il réduit les dettes des débiteurs. D'abord, il y en avait un qui devait de l'huile d'olive, près de 2800 litres d'olive. Ça représente une somme au prix de la bonne huile d'olive vierge qu'on connaît aujourd'hui. Il réduit la dette de moitié. Un autre qui devait 2 mesures de blé, il réduit la dette de 1000 mesures à 800 mesures de blé. Et il fait ça pour se faire des amis. Il est affûté, il est rusé. Et son raisonnement, c'est de se dire, quand je serai mis à la porte par mon maître, j'aurai des amis chez qui je pourrai aller. Quand je serai mis à la porte, je pourrai aller frapper à d'autres portes. Ce qui est curieux, ce qui est surprenant, c'est la réaction du maître, verset 8. Il y a même certains qui pensent qu'il y a une erreur dans la traduction ou dans la transmission des documents. Mais force est de reconnaître que ça va dans le sens de tout le texte. Le maître complimente l'intendant infidèle de ce qu'il avait agi en homme prudent. C'est intéressant, ça montre de la part du maître une grande largeur d'esprit. Il aurait pu envoyer les soldats se saisir de cet intendant pour le mettre en prison illico presto sur le champ. Mais devant l'astuce ou les ressources de raisonnement de l'intendant, il est comme admiratif. Il le complimente, il le loua. Il loua l'intendant infidèle. Alors là, il faut bien faire attention. Il ne le loue pas parce qu'il est malhonnête, mais il le loue pour son habileté. Pour la façon pleine de ressources dont il pense. Il est admiratif de la sagesse de cet intendant qui sait préparer son futur avec sagesse. Il sait qu'il va être mis à la porte, ça va pas tarder, c'est probablement une question de jours ou d'heures. Son maître lui a fait savoir qu'il ne pourrait plus être son intendant, mais dans le peu de temps qu'il lui reste, il se fait des amis. Et en fait, ce qui impressionne le maître, c'est que cet homme a agi en homme prudent. Il a agit, certes malhonnêtement, il continue à être malhonnête, mais il utilise sa sagesse pour préparer son futur. Il utilise des choses matérielles pour préparer un futur incertain. il avait agi en homme prudent. Et bien sûr, ce maître, c'est un type, une préfiguration de Jésus, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre, qui nous enseigne que l'on doit utiliser les choses matérielles présentes pour assurer un bénéfice spirituel futur. C'est quelque chose de... C'est la sagesse, c'est le bon sens selon Dieu, de nous rappeler que ce qui compte, c'est notre éternité future. Nous avons tendance à nous concentrer sur notre présent, à ne pas donner le moindre souci, la moindre pensée à notre futur infini, soit en présence de Dieu ou soit loin de Dieu. Nous donnons toute notre énergie pour le présent, pour nos richesses présentes. Et le reste de l'enseignement, donc on voit que l'intendant avait réduit les dettes. Certains veulent croire qu'en fait, il allait payer de sa poche le maître pour la réduction de ses dettes. Je ne le crois pas. Je pense qu'il voulait se mettre à l'abri du besoin pour le temps présent. Mais en tant que chrétiens, nous devons penser en termes d'éternité. Est-ce que nous investissons pour l'éternité ? Où tout ce que nous faisons, c'est limité à notre vie ici-bas. Et notre vie ici-bas, même si certains vivent longtemps, jusqu'à 100 ans, certains jusqu'à 110 ans, ça reste une vie très courte. Je peux vous le dire parce que ces 65 premières années ont passé comme un jour. Vous qui avez moins de 20 ans, vous dites, oh, ça c'est des histoires de vieux, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. Vous verrez que ces 10 prochaines années, elles vont passer comme un train lancé à grande vitesse. Vous direz, mais j'ai pas encore 30 ans. Et dans quelques instants après, vous arriverez à la quarantaine. Et je vous garantis, ça passe très vite. Nous devons utiliser nos richesses, nos ressources pour faire entrer les gens dans le royaume. C'est ce que veut dire Jésus lorsqu'il dit, ou l'intendant, ou le maître, pardon, qui est en fait un type, une représentation, une figuration de Jésus, lorsqu'il dit que les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Il veut dire que les gens du monde sont plus soucieux, plus rusés dans les choses concernant les richesses ici-bas, que nous, les enfants de lumière, devrions l'être pour les choses qui comptent vraiment, pour les choses d'éternité. Ils sont plus avisés, ils sont plus ingénieux, ils sont plus sages pour les sujets d'ici-bas. Il parle des enfants de ce siècle, les personnes de ce monde qui cherchent à améliorer leur vie ici-bas. Ils sont plus soucieux de le faire que les enfants de lumière, quelle belle expression. Vous êtes des enfants de lumière si vous avez mis votre foi en Jésus. Des enfants de lumière souvent négligent leur vraie richesse. Les enfants ils ne sont pas prudents, ils ne sont pas sages. Verset 9, il est dit, je vous dis, faites-vous avec des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles vous feront défaut. Autrement dit, faites-vous des vrais amis en les amenant. Vous pouvez être amis en donnant des richesses matérielles pour que ces personnes, une fois qu'elles seront parties, puissent vous recevoir dans les cieux. C'est autrement dit, les gens de la lumière devraient utiliser leur richesse injuste ou leur richesse matérielle pour acquérir des amis qui nous accueilleront dans les tentes, dans les tabernacles éternels. C'est investir que d'être généreux envers les autres. Faites-vous des amis avec les richesses injustes. Donnez de vos ressources avec tous les hommes. Nous devons encore une fois donc utiliser nos ressources matérielles pour aider les gens à entrer dans le royaume. Verset 10 et 12, celui qui est fidèle en peu de choses est fidèle dans ce qui est important. Celui qui est injuste en peu de choses est aussi injuste dans ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le bien véritable? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? L'idée, c'est que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu nous confie des choses plus importantes. Si nous gérons bien nos ressources, Dieu sait qu'il peut nous faire confiance pour nous faire gérer des ressources plus importantes. Il ne faut pas attendre d'être riche pour donner de ses ressources pour le royaume. Chacun peut donner une partie de ses ressources. Même l'étudiant le plus pauvre peut donner une partie de ses ressources pour l'œuvre de Dieu, pour signifier à Dieu qu'il reconnaît que tout ce qu'il a appartient à Dieu. Lorsque nous sommes fidèles en peu de choses, davantage nous est confié. Et lorsqu'il est question du bien véritable, c'est de nous dire que la façon dont nous gérons nos ressources matérielles, de cette façon dont nous les gérons, dépend les ressources éternelles que Dieu nous confie. Si nous accordons peu d'importance aux richesses matérielles en les partageant volontiers, Dieu va pouvoir nous accorder davantage de richesses matérielles et ce sont les richesses spirituelles du royaume qui vont être accrues à notre compte. Le bien véritable dont il est question, c'est celui-là. C'est pas notre compte en banque ici-bas pendant notre vie. C'est notre compte en banque, entre guillemets, pour l'éternité. Et la question, c'est si nous ne sommes pas fidèles dans les richesses injustes, ça c'est pour parler des richesses terrestres, pour les partager, qui va nous confier le bien véritable ? Si nous, verset 12, si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous ? Si nous ne gérons pas bien ici-bas les ressources que Dieu nous confie, les ressources financières, c'est toujours... La Bible est très, très prosaïque. On peut essayer d'édulcorer, de parler des ressources en façon générale, mais Dieu, Jésus, sait bien que ce qui compte, c'est pour nous, les hommes, c'est la monnaie sonnante et trébuchante. Et la façon dont nous dépensons nos ressources trébuchantes, alors trébuchant, ça ne veut pas dire qu'on tombe par terre, le trébucher, c'était une façon de une balance pour peser l'argent. C'est la façon dont nous dépensons nos ressources nous montre ce à quoi nous donnons de la valeur. Est-ce que c'est le présent tout de suite, moi tout seul, moi d'abord, ou est-ce que c'est les autres qui appartiennent à Dieu, c'est investir dans son futur. Et puis il a cette phrase bien connue, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Qui c'était ce gars-là ? Mammon, c'était une expression, une personnification de la richesse, un des dieux des nations cananéennes. Et ce passage est très clair, on ne peut pas servir à la fois Dieu, le Créateur des cieux et de l'univers, son Fils unique Jésus-Christ qu'il a envoyé pour nous sauver. On ne peut pas servir Dieu et en même temps servir le Dieu des richesses, le Dieu de l'appât du gain. L'amour de l'argent va nous éloigner de Dieu. Et l'amour de Dieu va nous éloigner de cet amour malsain de l'argent. L'argent est une ressource. L'argent est un bien que Dieu nous confie et qui en fait est un test de notre vraie connaissance de lui, de notre vrai caractère. Est-ce que j'ai tendance à tout vouloir garder pour moi ? Ou est-ce qu'au contraire, je prends plaisir à donner ? Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quelque part, je crois qu'on en a tous fait l'expérience. Il y a sans doute dans les placards chez vous, ou dans les sacs cachés quelque part, des cadeaux dont vous faites une joie à l'idée de les donner à l'autre. Peut-être qu'il y en a certains, peut-être les plus jeunes, qui sont plutôt à rechercher les cadeaux qu'ils ont demandés pour voir s'ils vont bien les recevoir. Mais c'est vrai que quand on est vraiment dans la volonté de Dieu, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nos ressources, nous devons les utiliser pour faire entrer les gens dans le royaume. Il y a une grande joie à donner pour faire venir les gens à Dieu. Et encore une fois, Jésus, c'est l'exemple parfait de riche qu'il était, il est devenu pauvre pour nous donner le vrai don de la vie éternelle. Les vraies valeurs. On continue, verset 14. Les pharisiens, eux, aimaient l'argent parce qu'ils considéraient ça comme un signe de bénédiction. Le pauvre était méprisé. On verra dans la seconde partie du chapitre que l'homme riche méprisait le pauvre Lazare qui mendiait devant sa porte. Et il y avait ce sentiment que si on était pauvre, c'est qu'on l'avait bien mérité, c'est que Dieu ne nous récompensait pas, que notre vie ne lui plaisait pas. Et c'est un peu comme s'il faisait des pieds de nez à Jésus. Il raillait Jésus-Christ. Il se moquait de lui. Et c'est vrai que Jésus, c'était un pauvre qui était suivi par des pauvres. Et pourtant, c'est lui qui donnait le meilleur enseignement sur l'argent. Pour eux, ils égalaient les richesses et la bénédiction. Et c'est vrai que dans l'Ancien Testament, il y a souvent des personnages comme Abraham, entre autres, qui étaient approuvés spirituellement par Dieu et à qui Dieu avait accordé une grande richesse matérielle. Mais ils se laissaient tromper parce que pour eux, la richesse était devenue synonyme de bénédiction et d'approbation divine. Et c'est là que Jésus les reprend. Il leur dit, verset 15, « Vous êtes ceux qui se font passer pour justes devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. C'est terrible de penser que ces hommes qui se trompaient aussi complètement, ils se pensaient riches, ils se pensaient bénis, ils se pensaient voués à l'éternité avec Dieu, et Jésus les reprend, il les met en garde. Vous êtes une abomination devant Dieu. Pas étonnant qu'ils cherchaient après à le crucifier. Quelle insulte pour eux. Verset 16, jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé comme une bonne nouvelle. Chacun use de violence pour y entrer. Il faut se faire violence pour justement renoncer à ce qui semble naturellement bon, naturellement une bénédiction. Et il est plus facile pour le ciel et la terre de passer que pour un seul trait de la loi de tomber. Et puis là, il ajoute, verset 18, « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. » On a l'impression qu'il est parti sur un autre sujet. Mais Jésus parle toujours de la même chose. Il dit la loi n'a pas changé. La loi et les prophètes, c'est toujours valable. Et il y a des choses qui restent. Jean-Baptiste, c'était la transition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, l'arrivée du royaume de Dieu. Eux ne respectaient pas la loi et ils avaient justement, et c'est là que Jésus utilise cet exemple, une vue très légère, notamment du divorce. Il disait qu'on pouvait divorcer avec son épouse. Certains, c'était si elle, il y avait une affaire d'infidélité, mais d'autres, c'était simplement si elle brûlait le repas, on pouvait décider qu'on allait la répudier. Il prenait le mariage, l'engagement du mariage à la légère, et Jésus leur rappelle l'importance et la permanence de la loi. Et ce message qui est continué en fait dans Luc 16, dans la deuxième partie qu'on Tonio probablement fera la prochaine fois, c'est l'idée que ce qui compte c'est notre cœur. Et ce cœur, il est révélé dans notre façon de gérer nos finances, nos ressources. L'argent, c'est quelque chose qui nous paraît des fois un peu gênant, un peu secondaire. Mais le maître voit nos cœurs. Le maître regarde et il veut nous bénir avec des richesses qui n'ont pas de limite dans le temps. C'est pas grave si on remet en cause une richesse passagère pour acquérir une richesse éternelle. C'est intéressant de voir que ce qui frappe toujours, c'est ce verset 8, où le maître fait des compliments à ce mauvais intendant parce qu'il avait agi en homme prudent. Et on raconte l'histoire d'un riche industriel qui voulait aller à Tokyo, mais alors qu'il s'apprêtait à prendre sa voiture pour partir, son veilleur de nuit était venu le supplier de ne pas le faire. Parce qu'il lui avait dit qu'en fait, dans un rêve, quand il travaillait, il s'était endormi, il avait rêvé qu'il avait vu que l'avion du maître allait s'écraser, s'abîmer en mer et qu'il n'y aurait pas de survivants. Et le maître a décidé de tester cela en reportant son voyage. Et le lendemain, il a lu dans les journaux qu'effectivement, l'avion s'était abîmé en mer. L'avion qu'il aurait dû prendre s'était crashé. Et donc l'industriel a décidé de faire un geste. Il a récompensé ce veilleur de nuit pour lui avoir sauvé ainsi la vie, avec un chèque de l'ordre, on dirait aujourd'hui, de 100 000 euros. Mais en même temps, il l'a mis à la porte de son entreprise. Il l'a licencié parce qu'il s'était endormi sur son lieu de travail. Il avait rêvé au lieu de veiller comme c'était son travail. Et ce gérant, quelque part, il admirait l'habileté, plutôt le maître admirait l'habileté du géant, mais il a désapprouvé sa gestion. Il a remarqué que c'était un homme habile, mais il s'est dit dommage qu'il n'était pas à la hauteur, que son honnêteté n'était pas à la hauteur de son savoir-faire. Et nous aussi, le maître nous regarde, le maître veut que nous utilisions nos ressources à bon escient, que nous fassions le meilleur usage des ressources qu'il nous confie. Parce que Jésus qui était riche s'est fait pauvre afin que nous qui sommes pauvres devenions riches dans l'éternité. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces textes qui parlent de quelque chose qui des fois nous semble bien bas, bien matériel, mais qui a une importance clé parce que ça révèle nos priorités, Seigneur. Et en cette période de Noël où le matérialisme se déchaîne dans notre société, en cette période où le matérialisme peut nous affecter nous-mêmes, Seigneur, pardonne-nous. Donne-nous de ne pas accorder trop d'importance, trop de préoccupation à ces choses matérielles, mais à nous centrer sur l'essentiel. le message d'amour que tu veux nous communiquer et que tu veux que nous transmettions autour de nous. Ce message d'un Dieu qui, de toute sa richesse, a fait fi en devenant pauvre pour que nous-mêmes nous puissions acquérir la richesse spirituelle pour l'éternité. Aide-nous à comprendre toujours mieux ce message, mais aussi le partager par nos vies, par notre exemple autour de nous. Sois béni, Seigneur, pour les vérités de ton royaume, pour cette logique qui nous semble à contre-courant, mais qui en même temps nous séduit parce que nous comprenons bien, si nous sommes tes enfants, quelle est la vérité. Seigneur, aide-nous à célébrer Noël en comprenant cette vérité que toi qui étais riche, tu es devenu pauvre, afin que nous qui étions pauvres, nous puissions devenir riches en toi. C'est notre prière en cette saison de Noël, dans le nom de Jésus. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, vous donne un Noël plein de vraies richesses. Amen.